Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Marc-André Gagnon. Bonjour Marc-André.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence la revue de la semaine en parlant du retard de la semaine.
Oui, celui de certains ordres professionnels, donc celui des infirmiers.
Ils n'ont pas aidé. Hein?
Des infirmières. Ben, il faut si on recule d'une semaine, il faut se souvenir que Christian Dubé, le ministre de la Santé, a fait pression sur les ordres professionnels pour qu'ils évitent que des professionnels de la santé se retrouvent dans une situation où certains sont non vaccinés. Mais qu'à partir du moment où on impose la vaccination obligatoire dans le réseau de santé, bien là, ils sont quand même en mesure de se revirer de bord puis d'aller travailler dans une espèce de formule de télésanté dans le secteur privé. M. Dubé tenait à tout prix à éviter ça, donc il demandait aux autres professionnels de suspendre le droit d'exercice des récalcitrants face à la vaccination dans le réseau de santé. Et donc, en début de semaine... Finalement, l'Ordre des infirmiers et des infirmières a décidé de faire comme les autres ordres professionnels. L'Ordre des pharmaciens également a décidé de se rallier, de répondre positivement à la demande du ministre.
S'il avait fait ça avant, peut-être qu'on n'aurait pas été obligé d'avoir la volte-face très difficile à faire et à admettre de la part de Christian Dubé.
Et à justifier.
Ben oui.
Aussi.
Parce que deux jours avant, il disait non, on ne reculera pas.
Ah, la veille ouais, encore. C'était la date du 15 octobre était immuable. Et on peut entendre l'extrait, le ministre a dû reculer.
La responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé... de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre.
On le sent dans le ton. Christian Dubé a souvent la voix, disons, cassante, là, un peu, je sais pas.
Oui. Ou cassée.
Ou cassée, oui, c'est le bon terme. Mais on le sent, on l'entend dans sa voix qu'il est déçu d'avoir à faire cette annonce. Clairement, ce n'était pas la décision... qu'il souhaitait prendre, mais j'ai l'impression que lorsqu'il a eu le portrait d'ensemble qui lui est venu des PDG, des CIS et des CIUS, il n'y avait pas d'autre choix que de prendre cette décision-là.
Et si les ordres professionnels avaient agi plus tôt, il n'aurait peut-être pas été obligé de faire ça.
Possiblement.
Parce que ça aurait été encore plus... ça aurait mis encore plus de pression sur les récalcitrants.
C'est ça. Et parce qu'il y a aussi le jeu des syndicats. Les syndicats... Et semble-t-il qu'on n'a pas vu ça ailleurs au Canada, des syndicats vraiment prendre fait et cause pour leurs membres non vaccinés et les défendre à ce point. Moi, je pense que ça aussi, ça a pu peser dans la balance. En tout cas, à tout le moins, ça, certainement, l'action syndicale, c'est mon point de vue, là, dans ce dossier-là...
Toi, un ancien président de syndicat.
vice-président.
Ah, vice-président, pardon. Président de la tribune, par exemple.
Oui.
C'est une autre sorte de syndicat.
Tribune, oui.
Oui.
ça a certainement contribué à retarder la vaccination, je pense, de certains professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement anti-vaccins, mais qui doutent, qui se posent des questions, qui ont besoin d'être rassurés. Et là, voyant que leur syndicat, ben, leur dit non, attendez, je vais vous défendre, puis ben, ça envoie peut-être pas le signal, en tout cas, certainement pas celui que le ministre souhaitait. Mais là, ben, on a vu dans les jours qui ont suivi cette annonce, donc depuis mercredi, le ministre Dubé qui essaie d'ajuster le tir ou en tout cas se montre ferme à nouveau maintenant sur la nouvelle date qui est celle du 15 novembre.
Plus personne n'y croit, mais en tout cas.
Voilà.
Hey, la récupération de la semaine, quelle est-elle?
Ben, c'est en lien avec le même sujet.
Oui.
C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui justement, lui, s'est allié au syndicat. Et le Parti québécois, en passant, est le seul parti qui était présent aux côtés des syndicats des travailleurs de la santé devant le Parlement lors d'un point de presse la semaine dernière, avant la semaine de relâche parlementaire.
Drôle de positionnement de la part du Parti québécois.
Difficile à justifier.
Vraiment.
Et notre collègue de Cube Radio, Benoît Dutrisac, l'a cuisiné.
Oui.
On peut d'ailleurs entendre un extrait qui résume la position de Paul Saint-Pierre Plamondon sur cet enjeu-là. Et ça...
Est-ce qu'on va entendre Benoît qui est fâché?
Non, okay. je l'ai au montage.
OK.
Mais on peut se reprendre en balado.
Oui, toujours à Cube Radio. Écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ben, j'applaudis pas, je célèbre pas, mais je suis soulagé, c'est pas la même chose. Je n'ai pas fait de gaieté de cœur sortir pour dire au gouvernement vous devez repousser parce que la catastrophe qui nous attendrait va causer des morts. Je veux dire, quand tu perds des milliers de personnes en même temps, le même jour, dans un système qui est déjà, qui tient un fil, ça a des conséquences sur des vies humaines. Pensez-vous que je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir?
Donc, il l'a fait à son corps défendant un peu.
Absolument. Bien, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il festoyait. Le Parti québécois a carrément crié victoire face à ce recul.
C'est pour ça que tu appelles ça la récupération de la semaine.
Absolument.
C'est ça. Et les oppositions, elles, cette semaine, étaient nomades. Donc,
ben oui.
C'est un trait de cette semaine, là, très particulier, parce qu'il n'y avait pas de travaux parlementaires.
Ben, c'est ça. C'était une semaine de relâche parlementaire. Et on n'en a pas nécessairement eu l'impression, nous, de notre côté, au bureau parlementaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces toute la semaine, mais il n'y avait pas de période des questions au Salon Bleu. Effectivement, les oppositions se sont promenées un peu partout en région. Ben, on parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, notamment, était dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Entre autres, rencontre entre le PQ et la FIC, la section régionale de la FIC là-bas, hein, quand je disais que le Parti québécois...
J'ai vu qu'il a revu François Gendron aussi, le parlementaire le plus... qui a la durée de vie...
Il a battu le record de la durée de vie d'un parlementaire.
Oui, merci.
Il s'est rendu aussi à Rouyn-Noranda, où il a rencontré des éducatrices en grève dans le coin là-bas. On sait que la situation est difficile dans les CPE. Dominique Anglade, de son côté.
Elle était où, Dominique Anglade?
Elle est allée sur la Côte-Nord. Alors, elle a notamment fait une visite d'entreprise à Sept-Îles pour discuter des enjeux de transport aérien.
Mm-hmm.
Un autre enjeu important.
Je tiens à te dire que la semaine passée, je me demandais où était Dominique Anglade.
Oui.
Parce que j'étais dans les tribunes des journalistes. Puis, j'ai écrit à son entourage.
Parce qu'elle n'était pas à la période des questions.
Elle n'était pas à la période des questions, effectivement. Puis là, on m'a dit, elle est dans Jean Talon, donc elle était à Québec.
Oui.
Mais on m'a répondu, on prépare les prochaines élections sur le terrain. Et des élections, ça se gagne justement sur le terrain.
Ben voilà, le défi... Hein, pour le Parti libéral aux prochaines élections, c'est d'être autre chose que ce que certains appellent méchamment le Parti libéral de Montréal.
Quebec Liberal Party of West Island.
Et je vais ouvrir une parenthèse quand même intéressante qui a pu passer inaperçue, pas cette semaine parce que ça ne se légiait pas, mais la semaine dernière. Le Parti libéral s'amusait en chambre et sur les réseaux sociaux à rebaptiser la CAQ,
oui.
La coalition Attente Québec. Alors, ils l'ont fait à quelques reprises en chambre jusqu'à ce que Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, se fâche et demande au président de tracer la ligne. Et François Paradis a tracé la ligne. On va appeler les partis par leur vrai nom.
Mais
et
oui.
Ça, c'est un couteau à double tranchant. Parce que ça veut dire que si les libéraux ne peuvent plus rebaptiser la CAQ coalition Attente Québec, ça veut aussi dire que la CAQ ne peut plus ne peut plus appeler le Parti libéral le Parti libéral de Montréal. C'est le Parti libéral du Québec. Alors, là-dessus, je referme la parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Depuis la semaine dernière, les partis n'ont plus le droit de rebaptiser le nom des différents partis qui sont...
François Legault appelait aussi le Parti libéral Québec solidaire.
Aussi, ce genre d'amalgame. Ah, mais là, comme c'est leur vrai nom, est-ce que l'amalgame est possible? Je sais pas.
Oui, peut-être que de coller deux noms, c'est permis. On va voir ce que François Paradis.
Donc, Dominique Anglade était sur effectivement sur la Côte-Nord. Elle était dans Jean Talon, t'as raison, la semaine dernière. Évidemment, ben Jean Talon, pourquoi justement cette défaite lors d'une élection partielle suite aux dernières élections générales qui faisait suite au départ du libéral Sébastien Proulx, c'est ce qui a fait en sorte que le Parti libéral est... dans les faits, devenu le Parti libéral de Montréal, puisque c'était leur dernier siège.
Leur comté le plus à l'est.
Exact.
C'est Anjou.
Quand même. Sur l'île. Quand même. Alors vraiment, le défi est là pour eux. Il faut croire que si ils prennent la peine, ils se donnent la peine de retourner dans Jean Talon, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être une victoire qui est possible. J'entends parler aussi beaucoup dans la région de Québec du comté de Jean Lesage, où ça pourrait être serré aussi dans un an, qui est le comté de Sol Zanetti, qui a longtemps été libéral comme comté. Je ne serais pas étonné qu'ils se rendent de ce côté-là aussi. Et
Québec solidaire, ils se sont déplacés aussi, ils ont voyagé?
Oui, bien, un peu moins loin, peut-être plus dans là où se retrouve leur base électorale, c'est-à-dire ils sont allés dans Anstic, Cartierville.
Ah bon? Okay.
j'ai vu que Gabriel Nadeau-Dubois a participé cette semaine à une soirée de mobilisation contre les pipelines. Alors, vraiment, on est allé fouetter les troupes au niveau de leur base électorale. Et sinon, il y a Catherine Dorion, puis Sol Zanetti, on vient d'en parler, qui, eux, ont effectué une petite sortie sur le bord de l'autoroute du Frein, où il y a eu un triste accident dernièrement, impliquant quelqu'un qui était en état d'ébriété. D'ailleurs, c'est devant les tribunaux cette semaine, et ça fait...
Ils voudraient transformer tout ce secteur-là en boulevard urbain.
En boulevard urbain.
C'est ce qu'ils réclament.
C'est vrai, par contre, quand on...
Je suis tellement d'accord.
Quand on revient de l'île d'Orléans et qu'on...
Ben oui.
La vue qu'on peut avoir sur Québec, le point de vue sur Québec, comme d'ailleurs quand on est à la baie de Beauport, là, si, pour les gens qui sont à l'extérieur
ou quand
de Québec,
on va sur la piste cyclable, c'est l'autoroute qui nous empêche d'être sur le bord de l'eau. Et c'est arrivé à Montréal, ça aussi, là, à Longueuil, là, quand on a construit les autoroutes, c'était plus facile d'exproprier là où c'était des terres qui étaient déjà publiques. Puis on a fait du remblai, tout ça. Donc, c'était facile de construire des autoroutes. Mais ce faisant, on nous a coupé l'accès à l'eau.
Ouais.
Et ça, 30, 40, 50 ans plus tard, on s'en rend compte, puis on trouve que c'est fou. Et Québec solidaire fait bien de réclamer ça.
Bien, il y aura peut-être...
Surtout que la cinquième phase, je pense, de la promenade
Samuel. C'est ça que j'allais dire. Il y aura peut-être une phase éventuelle de la promenade Samuel de Champlain, parce que sur le boulevard Champlain, là, à partir du château Frontenac qui allait jusqu'au pont de Québec pour situer les gens, tout ça est en train d'être aménagé, là où le port n'est pas en train de s'étendre sans aucune gêne, d'ailleurs.
Oui,
ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, mais éventuellement, il y aura peut-être, on appelle ça la promenade du littoral. Ça a été mis un peu sur la glace avec le projet de reconstruction d'un nouveau pont à l'île d'Orléans. Il y a le troisième lien aussi qui est venu mêler un peu les cartes, mais il y a des projets qui s'en viennent. Chose certaine, le ministère des Transports devra se pencher dans ce secteur-là sur un réaménagement d'une lumière ou d'une intersection, là, carrément sur une autoroute qui est dangereuse. Mais bon, c'est un autre sujet.
Oui.
Québec solidaire, qui du même coup est venu se mêler un peu des enjeux de la campagne électorale municipale,
ouais.
Même si c'est une voix du MTQ.
Oui, c'est ça.
Bref, annonce quand même intéressante. Okay. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bien ça, il faudra voir avec le temps.
La bonne nouvelle la semaine maintenant, rapidement.
On nous a annoncé que les bars et les restaurants du Québec vont de nouveau pouvoir fonctionner à pleine capacité. C'est à compter du 1er novembre. Je suis allé pour l'anniversaire d'un ami samedi dernier dans un restaurant de la basse ville de Québec. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé veiller en ville depuis le début de la pandémie. Honnêtement, j'ai pu constater que les gens sont prêts à retourner davantage dans les restaurants, dans les bars. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les tenanciers de bars et les restaurateurs qui mangent leur bas là, depuis le début de la pandémie, même s'il y a eu
des aides publiques d'aide
financières. Là, oui. Alors, c'est la bonne nouvelle. On pourra recommencer à en profiter pleinement à compter du 1er novembre. Ça fait du bien et c'est grâce à notre taux élevé de vaccination au Québec, là, forcément.
On finit sur l'horreur de la semaine. Vraiment, ça, c'est douloureux.
Oui, nos collègues du journal de Montréal, avec des images choc dans les pages du journal cette semaine, qui ont démontré les conditions horribles dans lesquelles des vaches, des agneaux, des animaux de ferme qui sont destinés aux abattoirs, en attendant leur sort, se retrouvent entassés dans des enclos qui sont surpeuplés parfois au double de leur capacité. Donc vraiment des conditions atroces. Et ce qui explique ça, c'est encore une fois la maudite pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de quoi dans ce cas-ci? De vétérinaires, mais qui sont pas embauchés par les abattoirs, qui sont embauchés par le gouvernement. Donc parce qu'il manque de vétérinaires du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation et blablabla. Parce qu'il manque de vétérinaires, quand il n'y a pas de vétérinaires du MAPAC présents sur place, les abattoirs ne peuvent pas abattre les animaux qui leur sont livrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils les entassent dans des enclos. Et le ministre André Lamontagne, parce qu'il y a quand même eu un conseil des ministres cette semaine à Québec, a réagi à cette histoire, essentiellement en avouant son impuissance, parce qu'il ne voit pas de solution à court terme. À plus long terme, il mise sur la formation de nouvelles cohortes de vétérinaires. Il y a un projet du côté de l'Université du Québec à Rimouski, mais dans l'immédiat, c'est comme si on va devoir continuer à les...
C'est triste parce que moi, je me souviens qu'il y a quoi, 6 ans, on a adopté le projet de loi 54, donc la loi 54 sur la protection des animaux, une loi qui redéfinissait l'animal en tant qu'être doué de sensibilité.
Ben oui, pour pas que ce soit juste un bien meuble.
C'est ça. Donc, c'est surprenant et triste qu'on en soit là, mais comme tu l'as dit, c'est un autre effet de la pénurie de main-d'œuvre.
Et c'est particulier quand même de voir qu'un gouvernement n'a pas de solution. Et l'avoue, il a dit tout simplement qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est difficile. Donc, il n'y en a comme pas de solution. On ne peut pas en inventer des vétérinaires et en former du jour au lendemain. C'est un peu ce qu'on vit, malheureusement, dans le réseau de santé aussi. On ne peut pas former des professionnels de la santé du jour au lendemain.
Des préposés aux bénéficiaires, on a pu les former assez rapidement.
Effectivement.
Ça a fonctionné, mais ce n'est pas une formule qui peut être finalement copiée de partout et répétée dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon.
Ça fait plaisir.
Oui. Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.